Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui est ambitieuse pour son pays. Elle veut que la femme marocaine ait sa chance afin d'explorer toutes ses compétences et pourquoi pas venir gonfler les statistiques du genre humain dans les domaines de pointe, tels que l'intelligence artificielle.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Maheg Mira, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lamara?
Ça va très bien, merci, merci de me recevoir.
Un plaisir de vous avoir, vous faites partie de ces très 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 rares femmes qu'on compte sur les doigts d'une seule main, même pas, spécialiste en intelligence artificielle au Maroc. Et quelle est là?
C'est ça, c'est bien ça.
Alors c'est vous et Madame Flach que j'ai eu le plaisir de recevoir au tout début de Femmes d'aujourd'hui pendant le mois de septembre dernier. Vous vous connaissez bien toutes les deux justement avec Amel Flach?
Oui, alors l'écosystème de l'intelligence artificielle étant assez petit au Maroc, les femmes, comme vous l'avez dit, qui exercent ce métier-là dans le domaine sont encore plus rares. Et donc oui, je connais bien Amel, j'ai eu l'occasion et le plaisir d'être sur des panels, sur des événements ensemble. On a beaucoup de choses qui en commun, notre amour pour le computer science, pour l'IA, et aussi notre fervente, on encourage de façon très ferme les filles, les femmes, l'inclusion, la parité. Donc oui, pour moi, c'est une grande dame et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Amel.
Alors justement, Maheg Mira, vous êtes deux femmes dans ce monde au Maroc. Est-ce que vous faites peur à ceux qui vous côtoient, aux hommes qui vous côtoient, honnêtement?
J'ose espérer non. Mais je vous avoue que c'est un travail quotidien de sensibilisation. Mais je pense aussi que le Maroc a fait de grands pas dans des domaines, j'ai envie de vous dire, comme le nôtre. Mmh. On est par nature et par défaut minoritaire. Et je ne pense pas que le Maroc soit... C'est un problème endémique à mon sens.
Exact.
Je ne pense pas que le Maroc fasse exception. Mais il faut travailler, il faut essayer d'inclure, il faut créer des leviers positifs. Et l'entrevue aujourd'hui, je pense que ça fait partie des choses qui mettent en lumière des parcours et qui inspirent d'autres jeunes filles à faire la même chose ou mieux.
C'est ça. Alors justement, vous, comment ça se fait que vous avez atterri dans ce domaine, entre guillemets, dit d'homme? Qu'est-ce qui ne vous a pas fait peur à vous, justement?
Alors, moi, il faut dire que j'ai toujours été un peu le mouton noir parce que j'ai toujours fait des choses qui m'ont fait plaisir et je pense que ça a été des choses aussi qui étaient presque majoritairement masculins. Donc moi je suis native de Rabat et ensuite au lycée j'ai fait sciences maths B à l'époque, donc je pense que ça veut dire plus grand chose pour des personnes de cette génération, mais ça voulait dire que je devais quitter mon lycée vers un autre lycée, Moulay Youssef à Rabat. Et parce qu'il y, d'abord, il n'y avait pas cette... on était très peu de filles. Je pense que c'était la troisième année où le sciences maths B était autorisé pour des filles. Et donc, j'ai obtenu mon bac à Moulay Youssef. J'ai fait ensuite des classes préparatoires. Et au fait, à chaque fois, à partir du collège, je sentais qu'à chacune de mes décisions, les filles devenaient encore plus minoritaires.
D'accord.
Sciences maths B, classes préparatoires. Ensuite, j'ai quitté le Maroc pour le Canada pour faire une école d'ingénieur. Et là, je vais vous avouer que c'est au Canada que j'ai été le plus sensibilisée à cette question de woman empowerment et d'inclusion et de parité, parce que là-bas, c'est 19% des étudiantes sont en génie. Et il y a des génies comme le génie aérospatial, physique, où c'est encore plus moins que
c'est
19%. Et donc, ils faisaient beaucoup d'activités, beaucoup d'initiatives, des bourses. Ils allaient vers les filles, les encourager, créer des mentorships. Et je voyais qu'ils faisaient un effort. Et ça m'a sensibilisée. Puis surtout, ça m'a beaucoup aidée. Une jeune Marocaine, culture nord-américaine complètement différente de la culture européenne à laquelle j'étais un peu sensibilisée. Et c'est là où j'ai eu le coup de foudre pour ces gens-là. J'ai eu beaucoup d'admiration pour ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit, ça mérite d'être reproduit ailleurs, quelques années plus tard.
C'est ça. Mais alors justement, vous le dites très bien. Vous dites très bien que cette problématique de, entre guillemets, la rareté de la femme dans ce genre de domaine et de spécialité. Et vous l'avez vu même au Canada pendant vos années d'études. Il y a des actions qui sont mises en place. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos classes, parce que vous aussi vous enseignez à l'université Euromed de Fès, est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de filles que quand vous étiez, vous, à leur place?
Oui, alors c'est un oui très sans hésitation.
Massif.
Parce que, oui, effectivement, parce que là, actuellement, j'enseigne dans une école assez spéciale, qui est une école complètement dédiée à l'intelligence artificielle, ici à l'Euromed de Fès. Et quand je vois ma classe, elle est très hétérogène en termes d'origine. On a des subsahariens également, des étudiants d'un peu partout. Et aussi, et surtout les filles, parce que moi, je fais un exercice systématique, c'est quand je rentre dans une classe, je compte le nombre de filles versus garçons. Mmh. Alors oui, la réponse est oui. Je pense que là, ça c'est des études comme le digital, l'intelligence artificielle, c'est assez démocratisé à l'ensemble des personnes, des origines et du genre. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a encore cette sensibilité au genre. C'est-à-dire que quand on est dans un projet, j'essaie de former des groupes mixtes, mais systématiquement, la parole est à l'homme, la fille prend moins de place, alors que elles sont tout aussi méritantes que les hommes. Donc, le premier pas est de créer une parité numérique, j'ai envie de dire, et le deuxième pas, c'est de les encourager, parce que même quand on est à nombre égal, il y a encore des choses culturelles, des obstacles culturels qu'il faut dépasser. Et ça, je pense que c'est à l'enseignant, le système éducatif, de changer ça.
Et vous, qui c'est qui vous a justement forgé, encouragé, est-ce que tout n'a été qu'émanant de vous, ou bien il y a aussi le rôle d'un certain entourage?
Ah oui, clairement. Moi, je suis issue d'une famille, mes parents ont trois filles. Alors, pour nous, pour mes parents, ils nous ont éduqués. Vous êtes capable de you can achieve. Vous êtes capable d'arriver là où vous avez envie d'arriver. On nous a donné de la liberté, mais on nous a aussi donné de la responsabilité qui venait avec de la liberté. J'ai envie de vous dire, c'est pas possible que ça vienne que de moi. C'est très environnemental, ces choses-là. Ma mère est un caractère fort. J'ai toujours admiré sa personnalité, de femme aussi dans mon entourage qui ont une forte personnalité. Donc je pense aussi que c'est une projection. Et ensuite, c'est le parcours. Donc une éducation, un peu je pense qui vient de moi, et surtout ensuite c'est l'environnement où on évolue. Je reviens encore à mon second pays, le Canada. Je pense que ils ont cette culture où la femme peut faire tout ce qu'elle veut et on l'aide, on lui donne les moyens. Sans aller dans des extrémités supérieures à l'homme, pas du tout. On parle juste d'égalité de chance et de promotion et de congés de paternité et de maternité. Comme ça, la femme ne coupe pas sa carrière. Donc voilà, c'est des leviers positifs sociétaux qui crée systématiquement cette volonté d'atteindre ses objectifs. Donc,
Alors, une fois que justement la femme que vous êtes est arrivée dans là où elle voulait arriver, qu'elle a décroché son doctorat, etc., est-ce que la sphère locale accepte la femme? Vous êtes deux aujourd'hui. Sans langue de bois.
Oui.
Comment ils sont avec vous, les hommes, dans les rendez-vous, dans les conférences, dans ce genre de choses?
Alors, j'ai envie de vous dire que on est bien accueillis, mais c'est sûr que et je pense que on nous accueille bien parce qu'on est on a des expertises pointues qui ne sont pas nombreuses, donc ça c'est une bonne chose. Mais j'ai envie de vous dire que parfois je suis plus confrontée au défi de l'âge parce que je n'ai pas encore... et l'expertise est jeune. L'intelligence artificielle, ça n'a pas des centaines d'années. C'est très jeune, comme c'est pas la médecine, c'est pas les mathématiques fondamentales. Donc la jeunesse combinée au sexe féminin, je pense que parfois ça fait peur à certains hommes. Mais je pense que quand on est en milieu professionnel, on arrive à dépasser ces a priori. Donc je vous dirais que pour le moment, ça fait pas très longtemps que je suis retournée au pays, après plusieurs années passées en Amérique du Nord, ça fait moins de 2 ans. Mais pour le moment, les choses se passent bien, mais il faut dire que j'évolue dans un milieu très académique ou professionnel, avec des entreprises conscientes de la parité, qui ont déjà mis en place des choses dans leur entreprise. Donc, globalement, c'est une expérience très positive.
Alors, vous avez parlé de la sphère professionnelle. Et dans la sphère personnelle, est-ce que ça fait peur aux hommes de fréquenter, côtoyer une femme aussi intelligente ?
Je pense que oui. Alors là, par contre, je pense que oui. Parce que, oui.
Il y a un monsieur, j'ose poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie ?
Oui, bien sûr, oui.
Et il s'adapte bien ?
Oui, aussi. Je vais vous dire, notre type de personnalité, je ne sais pas s'il y a un type, en tout cas mon type de personnalité, c'est au fait qu'on est... en anglais, il y a un proverbe que j'aime bien. On le prend ou on le leave it, et on le laisse. Mm. Et c'est comme ça. Je pense que quand on apprécie la personne, il n'y a pas de demi-mesure avec moi. C'est une personne qui m'a toujours soutenue, qui a cru en moi. Des moments, un doctorat. Alors moi, j'ai une carrière d'ingénieur, donc j'ai travaillé dans l'industrie et je suis retournée aux études. Cette décision n'a déjà pas été facile. Et ensuite, avoir le soutien des proches, ça aide beaucoup. Alhamdoulilah, j'ai un mari qui m'a soutenue pendant plusieurs années, qui continue à me soutenir, que ce soit dans la sphère, que ce soit pour les études, pour le travail. La décision de retourner au Maroc a été clairement une décision plus mienne que sienne. Et il m'a soutenue également. Donc... Et c'est important, j'aimerais aussi souligner que finalement, on arrive là où on est actuellement grâce à des hommes et des femmes.
C'est important parce que Mme Fellah aussi, Amel le disait dans l'entretien avec elle, je fais le parallèle parce que vous avez la même spécialité. Elle aussi, elle reconnaissait beaucoup le soutien de son mari. Puisque en plus de ça, elle est entre la France et le Maroc, elle a beaucoup bougé. Pendant longtemps, elle était installée là-bas, lui, il faisait des allers-retours entre le Maroc et la France. Et donc, elle disait, voilà, qu'on le veuille ou non, une femme, encore aujourd'hui, pour qu'elle puisse réussir, il faut qu'elle ait le soutien de son mari. Si elle est mariée, bien sûr, si elle est célibataire, elle est maîtresse d'elle-même. Mais si elle est mariée, il faut qu'elle soit soutenue et il faut qu'elle ait cette carte blanche, en quelque sorte.
Alors, il faut, je ne sais pas, mais il serait souhaitable quand on est soutenu, on va plus loin et on va plus à l'aise. J'avais des conférences en Australie et quand il pouvait, il m'accompagnait. Donc, en fait, c'est du concret, c'est-à-dire on est dans une vie, dans l'opérationnel. Beaucoup de congrès à l'étranger, aux États-Unis, des déplacements parfois de plusieurs semaines, voire de mois. De nuit blanche à travailler, à essayer de remplir des grants, des subventions de recherche, des rapports. On est tout le temps dans des environnements très masculins. Il ne faut pas être jaloux, il faut soutenir, il faut avoir confiance. Il faut aussi parfois faire des concessions. Au Maroc, on voit toujours l'inverse. C'est la femme qui fait les concessions, c'est la femme les katsbar, et l'homme, c'est lui qui est carriériste.
Tout à fait.
Je ne dis pas qu'on est carriériste, mais je dis que quand on a les moyens de faire des choses bien pour son pays, pour son continent, pour soi-même, il faut avoir du soutien. C'est toujours mieux d'avoir du soutien que de le faire à contre-courant de la famille et de tout le temps penser qu'on ne peut pas travailler et avoir allier les deux, le personnel et le professionnel.
Vous avez dit que le retour au Maroc, c'était votre décision à vous principalement. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir ?
Je pense qu'en 2019... Moi, j'ai toujours eu un mentor qui m'a toujours guidée et qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Et à un certain moment, on m'a dit l'intelligence artificielle, le digital, le Maroc prend un virage assez important et il a besoin de personnes qualifiées qui puissent... Parce qu'en fait, dans notre expertise, et je pense qu'Amel certainement l'avait mentionné, il y a cette question de souveraineté. On n'invente pas des choses. Des choses existent déjà ailleurs. Et si on se contente encore une fois de les acheter ou d'acheter des programmes, des algorithmes tout faits, je ne pense pas qu'il y a un grand intérêt à ça. Donc l'idée, c'est de former des gens qui vont travailler dans le domaine et surtout de développer des choses intramuros. Et ça, c'est important. Donc, je me suis dit, tiens, ça fait plus qu'une dizaine d'années que j'étais à l'extérieur du pays. Et donc, je me suis dit, ça serait une bonne occasion de redonner. Bon, en toute humilité, je n'aime pas cette expression. C'est parce que c'est aussi personnel. Mais je me suis dit, c'est le moment pour moi de rentrer au pays. Mmh. C'est le moment de vivre autre chose, d'expérimenter de nouvelles choses dans mon pays. Et je pense, vous m'aviez dit avant qu'on pouvait parler librement. Il y a quoi, deux trois mois, j'étais à Nairobi et on était dans un événement avec l'Union africaine.
Au Kenya.
Un événement scientifique. Oui, au Kenya, oui, effectivement. Je crois que c'était en novembre 2021. Et quelqu'un de la diaspora africaine au UK m'avait dit pourquoi tu es venu. Et avant que je ne réponde, très spontanément, il m'a dit « Moi, je sens que quand je suis à Manchester, je ne suis pas indispensable. Je fais des choses bien, mais je ne suis pas indispensable. Mm. Je viens 2 semaines au Nigeria, je sais que je suis indispensable. » Et je me suis vraiment retrouvée dans ces paroles. On fait beaucoup de choses bien quand on est à l'extérieur. Je pense à toutes les Marocaines et Marocains qui sont à l'extérieur du pays, qui font de très, très belles choses. Et quand on vient ici, on voit tellement de choses qu'il reste à faire que là, on a l'impression d'avoir un plus grand impact. Mm.
Et ça, c'est une plus grande mission aussi.
Pardon ?
Une plus grande mission également.
Une plus grande mission. Ça revêt, le professionnel revêt finalement une valeur
patriotique, presque.
Plus sentimentale. Voilà, plus sentimentale. On sent que... Moi, à chaque fois, j'ai un plaisir d'appeler mes étudiants par leur prénom parce que ça fait longtemps que j'appelle les étudiants par des Jennifer et des choses comme ça. Donc, moi, quand je dis Imen et Isha, c'est toujours un plaisir. C'est très personnel. Hein.
Ouais.
Je dis là, c'est différent. C'est de Michael, de Jean. Et c'est des choses comme ça. C'est des petits plaisirs au quotidien. Un prototype dans une ferme, à mettre de l'intelligence artificielle chez les agriculteurs, pour moi, c'est un plaisir de voir les retombées positives, c'est un plaisir. Voilà.
Alors, justement, comment on peut avoir plus de Mahagmira, justement ? Comment on peut faire en sorte que plus de filles rejoignent votre mouvement, votre état d'esprit ?
Alors, j'ai envie de vous dire à plusieurs niveaux. Donc, par exemple, en le 17 mai dernier, une chaire a été créée par l'initiative de l'Université Euromède de Fès et l'ICESCO, dont je suis la titulaire. Donc, le mandat est de promouvoir l'IA auprès des jeunes filles et des femmes. Il y a des activités qui se font, des femmes médecins, des femmes ingénieurs, des femmes journalistes. On fait des formations d'IA, d'introduction à l'IA. On explique ce que c'est parce que finalement, c'est de l'ignorance autour du domaine.
Complètement. C'est un domaine qui fait peur aussi.
Aussi, effectivement. Ouais. Parce que, et à juste titre, les enjeux sont très importants, les enjeux d'éthique, les enjeux de la responsabilité. Quand on parle d'une voiture autonome, mais qui est responsable en cas d'accident, c'est une voiture qui se conduit toute seule. Alors, est-ce que c'est l'inventeur? Est-ce que c'est le programmeur? Est-ce que c'est le constructeur automobile? Et c'est légitime. Donc, toutes ces questions-là sont importantes pour un grand public. Ensuite, il faut passer par des bourses. Il faut encourager les jeunes filles. Il faut faire un travail de proximité. Il faut faire des bootcamps. Bon, c'est des activités qu'on fait à la chaire. Mais de façon très générale, il faut... On part chez des jeunes filles de 7 ans, la plupart du temps dans des milieux ruraux ou des quartiers défavorisés de grandes villes. On ne sait pas très bien, on connaît WhatsApp, mais on ne connaît pas très bien une architecture d'ordinateur, comment les données sont transmises quand on utilise justement Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, on explique et par curiosité, les filles et les jeunes garçons sont curieux et ensuite ils pensent que déjà voir une femme qui parle de ça, ça crée un déclic. Et ensuite, des exemples comme ça concrets, ça crée de la curiosité intellectuelle et ça fait son petit chemin. On sème quelque chose. Si ça a une prédisposition à faire de la science, des mathématiques et de l'informatique, ça peut générer des AI specialists. Et si ça ne le fait pas, ben tant mieux, parce qu'ils auront fait autre chose, mais ayant pris connaissance de ce domaine-là et qu'il existe et qu'ils peuvent le faire. Moi, on me dit, est-ce que tu as envie que tout le monde se fasse de l'IA? Je dis non, bien sûr que non. Mais j'ai envie de faire germer de la curiosité et le sentiment de empowerment. Donc, on peut faire la chose. Et bien sûr, tout le monde n'a pas vocation à être médecin ou ingénieur. Donc il faut un travail de proximité, il faut des leviers financiers dans les universités, dans les lycées, dans les collèges. Il faut commencer ça très tôt. Il y a des modèles qui marchent très bien, le modèle finlandais, il y a des initiatives au niveau de l'UNESCO qui introduisent les mathématiques et l'informatique très tôt, mais de façon très ludique, c'est-à-dire quand je dis tôt, c'est-à-dire à partir de 4, 5 ans, 6 ans.
Mais quand voilà, vous dites, Maha, quand vous dites qu'il faut quand même un financement, il faut des bourses, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez soutenue dans ce sens-là?
Alors oui, avec la chaire, oui, parce que nous offrons des bourses de doctorat, d'excellence, de post-doc, nous offrons des stages.
Mais qui vous donne l'argent?
Qui vous donne les fonds? C'est l'université, l'ICESCO et d'autres bailleurs de fonds.
Okay.
Donc en fait, c'est-à-dire que c'est des institutions qui sont sensibles à cette question, à l'importance de sensibiliser le... Mais il en faut beaucoup plus. Vraiment, vraiment beaucoup plus. Et il y a le ministère aussi, à travers le programme Génie, j'ai eu l'occasion d'être sur un webinaire d'inviter Mme Ilham Aziz très récemment, le 24 janvier dernier, qui était la journée internationale de l'éducation. Et on a pu voir le travail colossal que le ministère a fait pour l'inclusion de personnes à capacité réduite, de personnes handicapées, de filles, des personnes, parce que l'inclusion, c'est pas juste le genre, c'est aussi le milieu rural, c'est aussi les personnes qui ont des problèmes, une dyslexie, autistes, qui sont malvoyants. Donc c'est une inclusion, et là, mais c'est sûr que quand on voit ce qu'ils ont fait, on est très étonné, on est époustouflé. Et quand on voit ce qu'il reste à faire, ben on est aussi... on est choqués.
On est choqués.
Oui, effectivement. Donc, ça veut dire qu'il reste encore
beaucoup à faire.
Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Et elles sont là surtout. Ça fait plaisir de les entendre, notamment à travers votre voix. Merci beaucoup, Maha Gmira, d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Marocaine engagée, impliquée jusqu'au bout. Merci, Lella.
Merci, très bonne journée.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.